Quand j'étais enfant, j'ai souvent entendu dire après la pluie, le beau temps. Et pourquoi pas après la malédiction, la bénédiction. En effet, comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, dans les prophéties de Jérémie, c'est quand les ténèbres sont le plus opaques que tout à coup surgit un rayon de soleil qui vient baigner le texte de sa lumière. Après avoir maudit le dernier roi de la lignée de David, descendant de Salomon, l'Éternel va prononcer une dernière sentence contre les rois de Juda, puis annoncer la venue du Messie. Le Messie qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je commence à lire le chapitre 23 de Jérémie. « Malheur à ces bergers qui perdent et dispersent les brebis de mon pâturage !» l'Éternel le déclare. « C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des bergers qui dirigent son peuple. « Vous avez dispersé mon troupeau de brebis, vous les avez chassées, vous n'avez pas veillé sur elles. Eh bien moi, je vous punirai à cause de vos agissements mauvais !» l'Éternel le déclare. Versets 1 et 2. Ici commence le dernier oracle de Jérémie contre les derniers rois de Juda. Ces mauvais bergers ont été mentionnés dans le chapitre précédent. En Israël, comme dans tout l'Orient ancien où la vie pastorale jouait un grand rôle, la figure du berger désignait le roi qui dirige son peuple. Je continue. « Moi, je rassemblerai ce qui reste de mes brebis dispersées dans tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leurs propres prairies où elles se reproduiront et se multiplieront. J'établirai sur elles des bergers de mon choix qui les dirigeront, et elles ne connaîtront plus ni crainte ni terreur, et plus aucune d'elles ne manquera jamais. » L'Éternel le déclare. Versets 3 et 4. Les brebis dispersées sont les Israélites exilés, mais un petit nombre de leurs descendants reviendra au pays. Alors, les brebis seront sous la conduite de bergers choisis par l'Éternel. Ce sont les serviteurs de Dieu qui, après le retour de la captivité, ont dirigé le peuple de Dieu comme Zorobabel, Néhémie et bien plus tard la famille de prêtres appelée Maccabée. Mais le regard du prophète voit plus haut et plus loin, au milieu de ces bons bergers, son regard cherche le personnage unique qui parachèvera ce que, depuis David, tous ses précurseurs n'avaient fait que commencer. Je continue. « Voici venir le temps, l'Éternel le déclare, où je vais donner à David un germe juste. Il règnera avec sagesse et il exercera le droit et la justice dans le pays. » Verset 5. Le germe juste est un terme prophétique qui désigne le Messie. Il est ainsi nommé une première fois par Ésaïe, et après Jérémie, cette expression est reprise et développée par le prophète Zacharie. On peut dire du fleuve prophétique qu'il s'accroît en marchant, car au fil du temps, une prophétie s'enrichit d'éléments toujours nouveaux. Malgré tous les rois de Juda infidèles, l'Éternel accomplira la promesse faite à David, et ce germe juste viendra un jour régner avec sagesse et justice. Il sera le bon berger, un titre que Jésus s'est lui-même donné. Quand il s'est présenté au peuple d'Israël, il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Or, comme on ne peut pas avoir un royaume sans roi, Jésus se déclarait le roi, le Messie. Il a été rejeté, mais comme l'annoncent les prophètes, il aura le dernier mot et le jour viendra où il établira son règne sur cette terre. Je continue le texte de Jérémie. À cette époque-là, Juda sera sauvé et Israël vivra dans la sécurité. Voici quel est le nom dont on l'appellera. L'Éternel est notre justice. Verset 6. On n'a jamais entendu un politicien en campagne proclamer qu'il représente la justice de Dieu. Ils disent tout et n'importe quoi, mais personne n'oserait affirmer une chose pareille. Quand Jérémie a fait cette prophétie, Sédécias régnait sur Juda. Or, il ne faisait guère honneur à son nom qui signifie « L'Éternel est ma justice ». Le contraste entre ce mauvais roi et le Messie n'en est que plus accentué. Quand Jésus instaurera son règne, il unifiera le peuple de Dieu et lui procurera la paix et la sécurité. Je continue le texte. C'est pourquoi des jours viennent, l'Éternel le déclare, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir d'Égypte les Israélites », mais l'on dira plutôt « l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir et revenir la descendance d'Israël de ce pays du Nord et de tous les pays où il l'aura chassé. Elle vivra alors dans son pays. » Versets 7 et 8. La Pâque juive qui remonte à 3000 ans est certainement la plus ancienne fête religieuse commémorée régulièrement partout dans le monde où vivent des Juifs. Ils célèbrent encore la délivrance miraculeuse de leur esclavage en Égypte. Cependant, plusieurs années avant l'exil babylonien, Jérémie annonce déjà que, d'une part, les Israélites reviendront de cette captivité, et d'autre part, ce retour sera encore plus remarquable que la sortie d'Égypte. De plus, dans sa vision prophétique, Jérémie voit à la fin des temps tous les Juifs revenir de la diaspora dans leur pays. Tous les prophètes de l'Ancien Testament voient et considèrent le retour de l'exil comme le prélude à l'ère messianique. Je continue le texte. Au sujet des prophètes, mon cœur est tout brisé et tous mes membres tremblent. Je suis comme un homme ivre, oui, comme un homme que le vin a dompté. C'est à cause de l'Éternel, de ses paroles saintes. Verset 9. Dans le chapitre précédent, Jérémie a fustigé les mauvais rois. Maintenant, il va s'en prendre aux faux prophètes. Mais en même temps, il exprime sa solidarité avec le peuple coupable à qui il est obligé d'annoncer les châtiments de Dieu. Jérémie est tellement angoissé par ce message de jugement qu'il en a le vertige. À toutes les époques de l'histoire d'Israël, on trouve des faux prophètes, mais ils n'avaient jamais été aussi nombreux qu'à la veille de la destruction de Jérusalem. Ils imitaient les vrais prophètes de l'Éternel en leur empruntant leur formule particulière. Cette faune parasite abondante témoigne de l'importance et de la vitalité du prophétisme en général en Israël. Je continue plus loin. J'ai vu des choses scandaleuses chez les prophètes de Samarie. Ils ont prophétisé au nom du dieu Baal et ils ont égaré mon peuple, Israël. Mais à Jérusalem, et parmi ces prophètes, j'ai vu des abominations. On commet l'adultère, on vit dans le mensonge, on encourage ceux qui font le mal en sorte qu'ils ne se détournent pas de leur méchanceté. Ils sont tous devenus pour moi comme Sodome et tous ses habitants comme ceux de Gomorre. Versets 13 et 14. Samarie était la capitale du royaume des 10 tribus et le centre d'un culte idolâtre. Cela faisait déjà un siècle que ces Israélites du Nord avaient été rayés de la carte et emmenés captifs en Assyrie. Jérémie établit ici une comparaison entre les anciens prophètes de Baal qui disaient n'importe quoi, c'est là le sens du texte hébreu, et les faux prophètes qui sévissaient en Juda. Ces derniers étaient bien plus dangereux que ceux du dieu Baal parce qu'ils trompaient le peuple en utilisant le nom de l'Éternel et en encourageant l'adultère et la violence. Je continue plus loin. À ceux qui me méprisent, les faux prophètes disent « L'Éternel a parlé, vous connaîtrez la paix » et à tous ceux qui se comportent selon les penchants de leur cœur, ils disent « Le malheur ne vous atteindra pas » Verset 17. Les faux prophètes se bercent d'illusions et annoncent la paix à tous ceux qui veulent les écouter. Pareillement, les politiciens œuvrent à la paix et à la prospérité universelle et ils y croient. Mais c'est un mirage et l'inefficacité des Nations Unies le prouve. Pourquoi cet échec constant? Parce que, a dit l'Éternel, il n'y a pas de paix pour les méchants. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas la paix. Le problème est que le cœur de l'homme est tortueux plus que toute autre chose et il est incurable. On ne se rend pas vraiment compte à quel point nous sommes dépravés. Nous habitons un monde non de paix, mais de profonde corruption. Je continue le texte plus loin. La colère de l'Éternel ne se calmera pas avant qu'il n'ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite du temps. Verset 20. La colère de Dieu contre Juda ne cessera pas avant la fin de la période historique de l'exil babylonien. Ensuite, le peuple pourra retourner dans son pays. Je continue plus loin. « Ne suis-je donc qu'un dieu de près ?» demande l'Éternel. « Ne suis-je pas aussi un dieu de loin ?» Quelqu'un, dit l'Éternel, pourrait-il se cacher dans un endroit secret sans que moi je le voie? Ne suis-je pas celui qui remplit ciel et terre? Demande l'Éternel. Versets 23 et 24. Le Dieu vivant est à la fois infiniment près de nous, car il compte les cheveux de notre tête, et infiniment au-dessus de nous, car les cieux et même les cieux des cieux ne peuvent le contenir. L'enseignement des textes sacrés est aussi éloigné du paganisme ancien qui enferme Dieu dans la nature que du déisme moderne qui le sépare de son univers. Je continue le texte plus loin. « Ma parole n'est-elle pas pareille au feu ?» demande l'Éternel. « N'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc ?» Verset 29. La sentence du prophète authentique est puissante et ne manque jamais de s'accomplir, contrairement au délire des faux prophètes. Malheur à ceux qui enseignent des fausses croyances religieuses et trompent ainsi ceux qui les écoutent, car elles auront des répercussions éternelles. Moqueurs et faux prophètes croient qu'ils échapperont au châtiment, mais il est seulement différé, car un jour ils recevront leur juste salaire. Dieu a toute l'éternité devant lui et le temps travaille pour lui. Je finis le chapitre 23. Et si quelqu'un du peuple, ou un prophète, ou bien un prêtre te pose la question, quel est donc le message dont l'Éternel te charge? Tu leur diras ceci. La charge, c'est vous-même. Je vais m'en délester. L'Éternel le déclare. Verset 33. En hébreu, le même mot désigne charge et sentence. Les moqueurs demandaient à Jérémie. Quelle est aujourd'hui la sentence dont nous charge l'Éternel? Le prophète joue leur jeu et répond à cette raillerie frivole disant « Oui, c'est bien d'une charge qu'il s'agit car vous êtes vous-même la charge dont l'Éternel va se décharger. » On ne se moque pas de Dieu. Chaque plaisanterie que l'homme fait sur lui, sur sa parole ou ses jugements, est une sentence qu'il prononce contre lui-même. Le chapitre 24 relate une vision de Jérémie après la première et principale déportation qui eut lieu en 597 avant Jésus-Christ, 11 ans avant la destruction de Jérusalem. Les Babyloniens emmenèrent les responsables du peuple ainsi que les artisans. Le roi Jéhoiakim fit lui aussi partie du voyage et fut remplacé par son oncle Sédécias. Je commence à lire le texte en compressant. « L'Éternel me donna une vision. Deux paniers de figues étaient posés devant le temple de l'Éternel. L'un de ces paniers contenait d'excellentes figues, comme le sont celles de la première récolte. L'autre, des figues très mauvaises, si mauvaises qu'on ne pouvait les manger. » Versets 1 et 2. Le figuier symbolise Israël. Les figues de la première récolte, mûres en juin, sont les meilleures, tandis que celles qui mûrissent en été, fin août, sont plutôt sèches. Je continue plus loin. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je considère les exilés de Juda que j'ai déportés de ce lieu-ci au pays des Chaldéens comme ces bonnes figues pour leur faire du bien. Oui, je veillerai sur eux pour leur bien et je les ramènerai dans ce pays-ci où je les reconstruirai pour ne plus les détruire, où je les replanterai pour ne plus les arracher. Je disposerai leur cœur à me connaître et à savoir que je suis l'Éternel. Alors ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. Versets 5 à 7. Dans sa souveraineté, le Seigneur a décidé que l'élite de la nation sera l'objet de ses grâces et reviendra de captivité. En attendant, ces exilés furent plutôt traités en colons qu'en esclaves. Ici, à nouveau, le retour de l'exil babylonien est vu comme un prélude à l'ère messianique. C'est à ce moment-là que l'Éternel opérera lui-même la conversion intérieure que les Israélites ne veulent et ne peuvent pas accomplir d'eux-mêmes, ni nous non plus, d'ailleurs. Je finis le chapitre 24. « Mais, déclare l'Éternel, je traiterai Sédécias, roi de Juda, ses chefs et ceux qui subsistent de Jérusalem, ceux qui restent dans ce pays et ceux qui se sont réfugiés en Égypte comme de mauvaises figues, qui sont si mauvaises qu'elles ne sont plus mangeables. Je ferai d'eux un objet d'horreur et de malheur dans tous les royaumes de la terre. Partout je les disperserai, on les couvrira d'opprobre. Ils seront la fable et la risée des gens et un objet de malédiction. Je déchaînerai contre eux l'épée, la famine et la peste jusqu'à ce qu'ils aient complètement disparu du pays que je leur ai donné à leurs ancêtres puis à eux. Versets 8 à 10. Les Israélites que Nabuchodonosor avait laissés en Juda se croyaient meilleurs que leurs frères exilés, mais se faisaient des illusions sur eux-mêmes et sur leur avenir. Ils se trompaient lourdement. Le châtiment de Dieu commence généralement par les siens et par ceux chez qui il discerne la possibilité de se repentir. Quant aux mécréants endurcis, ils semblent jouir d'une espèce d'immunité au châtiment, mais elle est trompeuse et ressemble plutôt au calme inquiétant qui, dans la nature, précède les grandes catastrophes. Les jugements sévères prophétisés par Jérémie se sont accomplis à la lettre tout au long de l'histoire du peuple juif. La diaspora dure toujours et perdurera encore jusqu'au retour du Messie. Avec le chapitre 25, nous arrivons à une nouvelle prophétie qui fut donnée en l'an 605 avant Jésus-Christ, la quatrième année du règne de Jéhoiakim, et au moins 7 ans avant les événements relatés dans le chapitre précédent. Je rappelle que les chapitres et les prophéties ne sont pas arrangés dans un ordre chronologique. L'an 605 est une année charnière mentionnée plusieurs fois par Jérémie parce que cette année-là, Nabuchodonosor vainquit les Égyptiens à Carchémish, puis assiégea Jérusalem et imposa un tribut au roi Jéhoiakim. Cela faisait maintenant 23 ans que Jérémie exerçait son ministère, 19 ans sous le roi Josias, 3 mois sous Joachaz et 4 ans sous Jéhoiakim. Je commence à lire dans le chapitre 25. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. « Puisque vous n'avez pas écouté mes paroles, je vais envoyer chercher toutes les peuplades du nord. » L'Éternel le déclare. « Et Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui servira mes desseins. Je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes les nations qui l'entourent. Je les exterminerai, je les dévasterai, j'en ferai pour toujours des ruines et l'on se moquera d'eux. » Versets 8 et 9. Dans le texte, Dieu appelle Nabuchodonosor « mon serviteur », ce qui est tout à fait remarquable car dans Ésaïe, ce titre s'applique tour à tour au peuple d'Israël et au Messie. Ici, il est donné au roi païen, l'exécuteur aveugle des plans divins. L'Éternel veut ainsi légitimer le pouvoir de ce tyran sur son peuple. On peut rapprocher de ce titre celui plus noble encore de « oint de l'Éternel » qui est appliqué à Cyrus dans le livre d'Ésaïe. Nabuchodonosor fut l'instrument qui mit fin au royaume de Juda et Cyrus celui de son rétablissement. Ces deux événements furent annoncés d'avance par les prophètes de l'Ancien Testament. Je continue le texte de Jérémie. « Je ferai disparaître de chez eux tous les cris de réjouissance et d'allégresse, la voix du fiancé et de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Le pays tout entier ne sera plus que ruine et terre dévastée. Toutes les nations seront assujetties au roi de Babylone pendant 70 ans. » Versets 10 et 11. Dans ses rapports avec Israël, Dieu utilise un calendrier qu'il nous révèle, alors que pour l'Église de Jésus-Christ, qui est une parenthèse eschatologique, on ne sait pas du tout quand celle-ci se fermera. En Orient, chaque famille avait son moulin pour moudre le grain et préparer le pain de la journée. De plus, les gens aisés laissaient une lampe allumée la nuit. Mais le jugement à venir va supprimer toute joie, toute prospérité et tout signe de vie. L'asservissement à Babylone a commencé en l'an 605, lors de la première prise de Jérusalem et du pillage du trésor du Temple. Le temps de l'exil correspond aux 70 années sabbatiques de Jachère, qui auraient dû être respectées au cours des 90 années séparant le règne de Saül, premier roi d'Israël, de la prise de Jérusalem. Je continue le texte. Et au bout de ces 70 ans, je demanderai compte de leurs crimes au roi de Babylone et à son peuple, l'Éternel le déclare. Je sévirai contre le pays des Chaldéens et je le réduirai en désert pour toujours. Verset 12. Les Babyloniens furent l'instrument de Dieu pour exécuter son jugement. Mais comme ils ont agi pour leur propre compte afin de satisfaire leurs visées impérialistes, ils seront à leur tour jugés. Leur empire prit fin en 538 avant Jésus-Christ, conquis par les Mèdes et les Perses. Je continue plus loin. « Car voici ce que m'a déclaré l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main la coupe du vin de la colère et donne-la à boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. » Verset 15. Cette image est fréquente dans les Écritures. La rébellion de l'homme contre son Créateur est comme une coupe qui, avec le temps, se remplit de la colère de Dieu. Une fois pleine, le jugement tombe et il est brutal. Le texte donne une longue liste de nations dont je vous ferai grâce, avec à leur tête Jérusalem et le royaume de Juda, suivi de l'Égypte, son allié. De là, Jérémie remonte vers le nord, en s'écartant tantôt à droite, tantôt à gauche, pour finir par Babylone. Cette prophétie contre les peuples païens est développée dans la dernière partie du livre. Je finis le chapitre 25 en compressant. « L'Éternel rugit de là-haut de sa demeure sainte. Il donne de la voix. Il pousse des rugissements contre son pâturage. Ce jour-là, les victimes frappées par l'Éternel resteront sur le sol d'un bout du monde à l'autre. Le tumulte en parvient aux confins de la terre. L'Éternel fait le procès des nations et il juge tous les humains. Il livre les méchants au glaive, l'Éternel le déclare. Un malheur se propage d'une nation à l'autre, des confins de la terre, un terrible ouragan se lève. Leur pays deviendra une étendue déserte à cause de l'épée des oppresseurs et de l'ardente colère. » Versets 30 à 38. La dernière partie du chapitre fait une description sanglante de la colère de Dieu contre les nations et leurs dirigeants. C'est très poétique, mais très réel aussi, et selon le livre de l'Apocalypse, le pire est encore à venir. Or, le seul abri que Dieu nous offre est la croix de son Fils Jésus-Christ. Moi, je m'y suis réfugié. Qu'en est-il de vous ?